Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Chers auditeurs des couilles sur la table, même si les podcasts s'écoutent à toutes les périodes de l'année, je sais que vous êtes nombreux à les écouter le jour de leur sortie. Et donc je me suis demandé de quel genre de discussion nous aurions le plus besoin avant les fêtes de fin d'année qui s'approchent. J'ai repensé à ces grandes tablées dans lesquelles je me suis retrouvée souvent désemparée, sans savoir comment répondre à tout un tas de préjugés très répandus sur le sexe et sur les prétendus destins auxquels ils nous obligeraient. Vous savez, quand votre cousin commence à expliquer que les hommes sont naturellement infidèles car ils ont besoin de disséminer leurs spermatozoïdes et que s'ils ont des pulsions violentes naturelles, c'est pour faire comme leurs cousins, les chimpanzés dominants, et que nos utérus sont faits pour être remplis et qu'on est censé tous se reproduire et... Enfin bref, vous voyez quoi. Donc je me suis dit que ça serait le bon moment pour faire cette fameuse émission sur le genre, la nature, l'instinct, les animaux, les hormones. On va le faire avec Thierry Hoquet. Thierry Hoquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre et vous travaillez sur les sciences de la vie. Vous avez des connaissances assez poussées en biologie et en physique. Et vous vous intéressez aussi depuis fort longtemps au genre et à la virilité, puisque vous avez signé, il y a 10 ans, avant que ça devienne à la mode, un livre qui s'appelle « La virilité », sous-titré « De quoi rêvent les hommes ?». Et puis, vous êtes l'auteur d'un essai qui a changé à tout jamais ce que je pensais savoir sur le sexe, donc pas au sens de sexualité, mais sur le sexe biologique, qui s'appelle « Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie ». C'est paru en 2016. Au seuil. Et enfin, vous avez dirigé une anthologie sur le sexe biologique en 3 volumes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à nous aider à survivre aux fêtes de fin d'année et aux discussions sur la nature des hommes. Première question, Thierry Hoquet, qu'est-ce qu'un homme d'un point de vue biologique ?
Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que la biologie, c'est pas la science des êtres humains. C'est une science qui parle des êtres vivants en général. Donc, elle doit utiliser des concepts qui s'appliquent à toutes sortes d'organismes. Pas seulement les humains, pas seulement les mammifères, pas seulement les vertébrés même, mais beaucoup plus généralement. Donc, pour la biologie, elle va isoler des espèces dans lesquelles il y a un mode de reproduction qu'on appelle reproduction sexuée, qui n'est pas un mode de reproduction obligatoire. On peut se reproduire différemment. Mais pour les espèces à reproduction sexuée, on observe que, généralement, il y a 2 contributions, une qui vient d'un mâle et l'autre qui vient d'une femelle. Donc, dans toutes les espèces qui ont cette reproduction sexuée, dont l'espèce humaine, on peut imaginer qu'il y a un mâle et une femelle, d'accord ? Et donc, dans ce cadre-là, eh bien oui, pour la biologie, l'homme, ça sera le mâle de l'espèce humaine, et femme, ça sera la femelle de l'espèce humaine. Sauf qu'en fait, dans la plupart des usages ou des emplois qu'on fait de ces termes, hommes et femmes ne sont pas synonymes d'une simple définition biologique. Et c'est là que se crée une sorte de petit écart qui est très signifiant et riche ou lourd de conséquences. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand Simone de Beauvoir a pu écrire « On ne naît pas femme, on le devient », par exemple, ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire d'abord que, d'un point de vue médical, si vous voulez, ou du point de vue du développement de l'individu, un individu naît de sexe féminin, mais n'est pas immédiatement une femme, au sens où il n'est pas immédiatement doté de la capacité de reproduction, par exemple. Il faut attendre un certain temps, ça n'est pas donné à la naissance. Donc, être un individu qui contribue à la reproduction sexuée, ça demande un temps. Donc ça peut être un premier sens tout à fait basique de la phrase de Beauvoir. Mmh. Mais plus généralement, on peut dire « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est une manière de dire qu'il faut séparer le concept de femme, qui est une réalité qui est biologique, mais que l'on connaît toujours dans des instances, dans des exemples qui sont historiquement situés, socialement situés. On ne connaît pas la femme biologique. On connaît toujours des femmes ou des hommes qui sont des hommes de telle société à telle époque, en tel lieu. Voilà. Et donc, il y a un écart, en fait, ici, qui fait que, je dirais, un être humain n'est jamais nu, n'est jamais purement biologique. Un être humain, c'est toujours une matière biologique, mais qui est en quelque sorte enchevêtrée à des déterminations socio-culturelles, historiques, etc. Ce qui fait que tous les êtres humains que nous connaissons ne sont jamais la pure illustration de ce que c'est que un mâle ou une femelle, qui sont les seuls concepts biologiques stricts. C'est-à-dire, in fine, ce que je dirais pour répondre à votre question, c'est que homme et femme sont des concepts qui sont enchevêtrés de biologie, qui comprennent des aspects biologiques, mais dans lesquels on ne voit jamais la biologie pure. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît.
Donc maintenant,
qu'est-ce que la biologie nous dit d'un mâle,
en fait ? Qu'est-ce que la biologie nous dit d'un mâle ?
D'un homme, en l'occurrence.
Qu'est-ce que la biologie nous dit d'un homme ?
Théoriquement, donc si on emploie cette définition stricte dans une espèce à reproduction sexuée comme la nôtre, un mâle, globalement, généralement, c'est un individu qui produit des petits gamètes, donc des spermatozoïdes, en grand nombre. Par opposition à une femelle qui sera un individu qui produit des gros gamètes, des ovules, en petit nombre. Donc, typiquement, biologiquement, c'est ça la définition. Voilà. Et le fait qu'il faille, du coup, des mâles et des femelles et des mâles pour faire des bébés, c'est un fait qui est globalement accepté par tous les biologistes. Voilà. Ça, il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Éventuellement, on peut dire que dans certaines espèces, la contribution des mâles et des femelles est à peu près équivalente. C'est ce qu'on appellera des espèces isogames. Elles produisent les mêmes gamètes. Mais quand même, dans les espèces à reproduction sexuée, ce qu'on appelle l'anisogamie, c'est-à-dire que les deux contributions ne sont pas équivalentes, c'est quand même le modèle dominant.
Et c'est le nôtre dans l'espèce humaine.
Et c'est le nôtre dans l'espèce humaine.
Alors, je vous pose cette question parce que tout votre ouvrage, c'est sur qu'est-ce que c'est le sexe. Là où le bon sens nous dit que le sexe, c'est le sexe. Le sexe, ça nous paraît... on pense aux vaches et aux taureaux, on pense aux animaux qu'on connaît, on se dit c'est pas compliqué, il y a des mâles et il y a des femelles, et voilà. Puis en fait, vous, votre essai, vous montrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il n'y a pas forcément deux sexes. Tout dépend le sens qu'on accorde au mot sexe. Et donc, je me dis, le sexe mâle, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est là qu'il y a un écart, vous voyez, parce que si la définition biologique, c'est juste de dire il y a des contributions des individus à la reproduction qui ne sont pas équivalentes, ok. Mais en fait, on voit bien que quand on parle d'hommes et de femmes, on pense à plein d'autres choses. Et que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est contenu dans ce petit fait biologique, très important, mais petit quand même, qui est de dire il y en a qui font des spermatozoïdes et d'autres qui font des ovules. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, c'est très lourd, en fait, parce que déjà, il faut rajouter un truc qu'on n'a pas dit. C'est qu'en fait, dans l'espèce humaine, les organes qui font les gamètes sont séparés dans des individus différents. Et donc, ça, c'est important aussi. Parce que du coup, on ne va pas dire seulement qu'il y a des gamètes femelles et mâles ou des gonades femelles et mâles, c'est-à-dire des glandes qui produisent ces gamètes. Mais il y aura aussi des individus qui pourront être dits femelles et mâles. Mmh. Voilà.
Alors que c'est vrai qu'il y a des espèces dont des individus produisent deux types de gamètes.
Bon, c'est ce qu'on appelle typiquement des hermaphrodites. On pense à l'escargot en général. Donc ça serait des hermaphrodites simultanées, c'est-à-dire des individus qui, à un moment donné, peuvent jouer le rôle de mâle ou de femelle dans la reproduction sexuée. Pas simultanément, mais disons, ils sont en capacité de. Alors il y a aussi des hermaphrodites, successifs.
Oui, ça dépend des périodes de la vie et tout. Mais bon, voilà. ne nous éloignons pas
des humains, parce que c'est quand même...
Voilà,
c'est important
sujet.
Quand même de se souvenir que quand on parle de biologie, on parle de choses dans lesquelles les humains sont englobés, incontestablement, mais dont ils ne sont qu'une toute petite partie, en fait. Alors, c'est une toute petite partie qui nous intéresse énormément et sur laquelle il y a beaucoup de discours. Déjà, 31 épisodes de votre émission, donc ça montre à quel point il y a de choses à dire. Mais voilà, donc ne nous éloignons pas.
Qu'est-ce que ça implique de produire des petits gamètes nombreux, des spermatozoïdes ?
Concernant cette question, qu'est-ce qu'on peut tirer du fait qu'ils produisent, il y a des individus qui produisent des petits gamètes nombreux ? Évidemment, dans la mythologie populaire spontanée, est associé à ce caractère biologique des choses très complexes et qui en sont très éloignées, à savoir que les hommes, du coup, vont être autorisés ou portés naturellement à copuler un peu dans tous les sens, parce qu'il faut bien répandre ces gamètes nombreux. Et en particulier parce que les hommes, et ça aussi, ça doit être un fait biologique incontestable, ne sont pas, chargés de la fabrication du corps du bébé, ne sont pas chargés non plus de l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose dont, disons, l'être humain s'est émancipé au cours du XXe siècle, à peu près, qui avant quand même pesait lourdement sur les corps féminins aussi. Donc on a l'impression que la contribution du mâle à la production des petits doit se borner à donner cette première contribution initiale, le petit spermatozoïde, voilà, et puis ensuite, pourrait presque s'arrêter là, en fait. Hein. Et donc, l'infidélité célèbre du mâle qui peut, du coup, être employée uniquement à disséminer, quoi. À ce moment-là, on voit qu'entre les deux choses, le gamète et l'infidélité, il y a tout un tas de trucs qui viennent se loger là. Et par exemple, l'idée qu'il y a une famille naturelle, c'est-à-dire qu'entre la femme et l'homme, il y a une société naturelle et que c'est le modèle de toute société en général qui se trouve là dans cette cellule familiale. Qu'il y a aussi une division du travail à l'intérieur de cette famille entre la femme nourricière et puis le mâle pourvoyeur de ressources. Mmh. D'accord ? Donc en fait, on voit que notre mythologie de la différence des sexes, elle se décline sur de nombreux niveaux. Donc c'est très feuilleté, en fait, vous voyez ? Et évidemment, c'est tellement fort, tellement prégnant, ça explique tellement de choses, en fait, qu'on a du mal à se dégager de cette mythologie-là.
En fait, il y a quelque chose de très rassurant, je trouve, dans ces théories naturalistes, quoi. C'est comme si tout s'expliquait par ce fait de base des spermatozoïdes versus ovules et qu'on pouvait... Il y a quelque chose de très rassurant, mais qui n'est pas vrai.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on s'intéresse à ce que c'est que mâle et femelle, la difficulté dans notre espèce, c'est que tout est ramassé, en fait. Mâle ou femelle, c'est à la fois le gamète, à la fois la glande, la gonade, à la fois l'individu. Oui. Et du coup, on a tendance à superposer différents niveaux et à voir le gamète, le spermatozoïde, comme un individu en petit. Une sorte de minimal, en fait, déjà. Et du coup, on est porté à une sorte d'animisme, en fait. C'est-à-dire, on se projette, nous, en tant qu'individu complexe, dans un gamète, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, ça donne lieu à toute la mythologie sur les récits de fécondation, voilà, qui sont comme La Belle au bois dormant.
Oui,
où
alors
on a...
ça, par exemple, c'est dans votre livre que je l'ai lu.
Si vous voyez
ce qu'on
image...
apprend à l'école, c'est y a un gros ovule qui attend, et puis il y a tous ces spermatozoïdes guerriers là, qui vont arriver et qui vont se battre, et qui vont transpercer l'ovule, et que le plus fort gagne. Et l'ovule ne fait rien, l'ovule attend, l'ovule est passif.
Bah, l'ovule, c'est la belle au bois dormant.
C'est la belle
au
bois dormant, voilà. Elle attend le baiser du prince.
Sleeping Beauty. Hein.
Voilà.
Donc, voilà. Et en fait, c'est très intéressant parce que quand le langage nous prête à voir les choses comme ça, dans la mesure où on dit, quand on voit une image d'un ovule avec des spermatozoïdes, on dit l'ovule va être fécondé par le spermatozoïde. Être fécondé par, c'est-à-dire c'est passivité
passif.
En fait.
Okay.
L'ovule ne fait rien. Et donc il a fallu faire des expériences pour montrer qu'en fait l'ovule, s'il était mort par exemple, il n'y avait pas de fécondation possible. Quoi.
Et puis que l'ovule choisissait, enfin il y avait une sélection du spermatozoïde par l'ovule.
Voilà,
aussi,
et puis il y a des processus actifs par lesquels le spermatozoïde peut être guidé vers certains récepteurs, etc. Donc l'ovule fait plein de choses en fait, mais qu'on ne voit pas nécessairement.
Et pourquoi est-ce qu'on ne les voyait pas ?
Cette science-là, elle a été écrite par des hommes. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est un homme, on est prisonnier nécessairement de son point de vue, etc. Mais malgré tout, il y a cette idée que ce n'est pas simplement l'acte de reproduction, mais la division du travail telle qu'elle a lieu dans la société qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, en fait, quand on montre une femelle accumulatrice et passive et un mâle actif, dynamique et explosif, on a l'impression qu'on n'explique pas seulement la reproduction, mais l'histoire générale de l'humanité et de la société. Donc c'est cet animisme que j'appelle, plutôt que de sexisme, je parlerai d'animisme, c'est-à-dire cette manière de projeter dans nos gamètes minuscules et longtemps inconnues des représentations des individus, en fait, avec une personnalité, avec un destin de l'humanité derrière. Quand on voit qu'un spectacle populaire qui tourne dans les théâtres de toute la France, c'est un truc anglo-saxon d'ailleurs, hein, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », on voit bien l'animisme, au sens où hommes et femmes, ça n'est même pas des données biologiques, c'est Mars et Vénus. Donc c'est une sorte de truc cosmique, en fait, qui est rejoué par chacun d'entre nous, en fait. Et si on pense que, justement, Mars et Vénus, ce sont les signes mêmes avec lesquels la biologie écrit les symboles mâles et femelles, que le signe qui dit mâle, c'est le célèbre bouclier de Mars avec son petit glaive, et que le signe de Vénus, c'est la femme qui tient son miroir, on voit à quel point la manière dont nous parlons de mâle et de femelle est, en fait, toujours déjà codée, inscrite dans une mythologie qui va bien au-delà de simples données biologiques. Il y a tout un impensé qui est immédiatement réinvesti dans le type de savoir que l'on peut prendre. Et c'est très difficile de s'arracher à la mythologie pour une raison très simple, c'est que beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens sont attachés férocement à cette mythologie parce qu'il y va de leur identité propre. On pourrait dire que voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est des êtres humains avant d'être des femmes ou des hommes ? Eh bien, je crois que pour beaucoup, l'identité sexuée, c'est le premier déterminant d'un individu. Et après viennent peut-être la religion, des choses comme ça. Et puis tout en bas, le fait d'être un être humain, oui, ça c'est secondaire en fait. Il n'y a qu'à voir ce qu'on fait aux migrants en ce moment. Donc, reprenons.
On revient à la question basique, enfin en apparence, de combien il y a de sexe. Est-ce que le sexe, c'est que de la gamète ? Parce que vous vous dites, bon, il faut rappeler qu'il y a un sexe gamétique, mais il y a aussi un sexe génétique, un sexe gonadique, un sexe gonophorique interne, gonophorique externe, hormonal, somatique, etc. En fait, il y a plein de façons de définir le sexe.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire... Alors maintenant, on parle des individus humains, d'accord ? Et ce qu'on appelle le sexe d'un individu, c'est pas une réalité qui serait logée quelque part dans le corps et qu'on pourrait pointer du doigt et uniquement là. C'est un truc beaucoup plus complexe au sens où ça se traduit à plein de niveaux différents. D'accord ? Quand je vous vois, quand je vous parle, quand je lis votre prénom, ou voilà, je fais des inférences en fait sur vous. Mais à aucun moment, j'ai eu accès à votre formule chromosomique, par exemple. Et pourtant, je dirais, vous êtes une femme, c'est un homme, etc. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le sexe est un truc qui est distribué à plein de niveaux. Il y a certains niveaux qui sont logés dans vos cellules et qui sont déterminés dès la fécondation. C'est votre sexe chromosomique. Et puis, il y a des choses qui concernent votre sexualité à laquelle je n'ai pas accès, qui concernent votre identité psychique, la manière dont vous choisissez de vous présenter ou pas, votre anatomie, etc. Et donc, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, des gens me disaient « Mais en fait, on peut faire des inférences très fortes. » C'est-à-dire, si je rencontre un individu que je classe dans la catégorie femme ou homme, je vais pouvoir aussi faire des déductions sur, et des déductions valides en fait, sur sa formule chromosomique, sur le type de gamètes qu'il produit, qu'il ou elle produit, etc. Donc, le sexe, il est distribué à plein de niveaux, mais ces niveaux sont supposés être en cohérence les uns avec les autres.
On est avec un chromosome, reprenons les hommes, puisque c'est ce qui, voilà. Ceux qui nous intéressent là principalement. Inès avec un chromosome XY, et de là tout s'ensuit.
De là tout s'ensuit, c'est-à-dire, en fait, ils vont avoir un développement qui va conduire à la formation de testicules, d'un pénis, et donc à partir de là, à la puberté, la production de spermatozoïdes, et puis, du coup, aussi, une identité psychique d'homme, une socialisation comme homme, un numéro de sécurité sociale qui commence par 1, et puis, voilà, tout ça s'ensuit. Seulement, en fait... La question, c'est à la naissance, est-ce qu'on a prélevé une cellule à cet individu pour savoir s'il était XY ? Non. Le sexe a été déduit à partir d'un autre critère. On a regardé entre les jambes du petit bébé, on a dit « c'est un garçon ». D'accord ? Et c'est à partir de ça qu'on a fait toute l'inférence. Mais à aucun moment, on a fait un caryotype, vous voyez ? Donc, il y a cette idée que le sexe, il est distribué à plein de niveaux, mais que ces niveaux sont jugés, sont supposés voilà, être en cohérence. Donc, à ce niveau-là, on dit qu'il y a deux sexes, parce qu'il y a deux formes typiques, et puis deux formules chromosomiques typiques, et puis voilà. Et puis deux sexes d'état civil à la fin. Seulement, voilà, il y a des individus qu'on appelle les personnes intersexuées, qui ont, alors, soit des formules chromosomiques, soit des anatomies génitales, qui ne sont pas typiques de l'un ou l'autre sexe. Et donc, ces individus-là, qu'est-ce qu'on en fait dans le système humain, qui est un système comme ça, présenté comme binaire ? Donc aujourd'hui, certains arguent qu'il faudrait créer un troisième sexe, une sorte de catégorie un peu fourre-tout et indéterminée dans laquelle on mettrait toutes les personnes qui n'entrent pas dans ces formes typiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dans un système binaire ?
Parce qu'il y en a beaucoup quand même.
Ben, c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Alors selon les évaluations, 3, 4, 5 % de la population, ce sont des êtres humains. Okay. Et oui, c'est dur de devoir rappeler une évidence pareille, mais Foster Sterling, au début, a une idée. Elle a dit qu'il faut créer...
C'est une biologiste américaine.
Une biologiste américaine. Elle a écrit des articles au début des années 90 qui parlaient des cinq sexes en disant... donc, en anglais, ils utilisent mâle et femelle dans un sens beaucoup plus large, y compris pour parler de ce que nous, on appelle des femmes et des hommes, en fait. Des hommes et des femmes. Ils disent, elle a dit « male and female are not enough », mâles et femelles ne sont pas assez, et elle a proposé d'autres catégories pour élargir en fait, voilà. Et puis elle est revenue là-dessus en disant, en fait, bon, malgré tout, ça reste quand même une typologie très ancrée, quoi. Et de fait, ce que les personnes intersexes revendiquent aujourd'hui, ça serait plutôt la question d'une neutralisation de l'état civil, c'est-à-dire, en fait, les catégories hommes et femmes à l'état civil, sexe masculin, sexe féminin, est-ce que ça sert beaucoup ? Pas tant que ça, finalement. Donc, il y a cette question, voilà, qui ouvre le champ de réflexion. Combien y a-t-il de sexes ? Parce qu'en général, on pense qu'il y en a deux. Fausto Serling nous dit qu'il y en a cinq. Pourquoi cette différence, en fait ? Mais en fait, on s'aperçoit que Fausto Serling, dans sa classification, elle s'appuie justement sur un de ces niveaux du sexe. Elle s'appuie sur le niveau qui consiste à dire, voilà, si on regarde les anatomies périnéales, il y en a deux qui sont typiques et qui sont peut-être majoritairement représentées dans une population, mais il y en a d'autres aussi, qu'on doit respecter en tant que telles. Et ça, c'est très important. Mais elle ne fait pas de... Comment dire ? Elle ne va pas dire qu'il y a cinq sexes aussi au niveau chromosomique, ou bien il n'y a pas cinq sexes aussi au niveau des individus qui produisent des gomètes.
Des gamètes.
Qui produisent des gamètes.
Puisqu'on voilà. ne peut en produire que d'un seul type, soit des voilà. gamètes mâles, soit
Donc,
des gamètes femelles.
Selon le niveau auquel on se situe, pour compter, le niveau biologique fondamental, c'est les formules chromosomiques. Les XX et les XY. Mais il y a aussi des X0 et des XXY. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous voyez ? Donc, il y a ce niveau chromosomique fondamental. Il y a le niveau périnéal qui est le niveau de l'état civil, en quelque sorte, le niveau auquel se situent les médecins. Et puis, il y a le niveau de l'état civil qui est le niveau déterminant, finalement, pour les personnes, celui avec lequel on navigue à vue. Donc, selon le niveau auquel on se place, il y a différentes manières de compter et de répondre à la question « Combien y a-t-il de sexe ?»
Et c'est pour ça que votre livre s'appelle « Des sexes innombrables ».
Des sexes innombrables parce qu'en fait, c'est pas seulement les genres qui sont innombrables, c'est-à-dire les manières sociales dont on peut jouer avec la question sexuelle et se situer dans cette bipolarité symbolique homme-femme. Voilà. Il y a aussi une pluralité au niveau des données biologiques qui doit être prise en compte.
J'aimerais qu'on parle des hormones, parce que c'est un argument qui est super souvent utilisé pour justifier les comportements des hommes, en disant bah, c'est la testostérone. Pourquoi cette fascination pour les hormones ? Pourquoi c'est un argument qui revient tellement souvent ?
Il faut d'abord dire que les hormones, c'est une découverte extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a découvert des molécules qui, de fait, ont un impact potentiel sur le comportement. Vous voyez ? C'est incroyable d'avoir découvert ça. C'est quelque chose qui a paru immédiatement renforcer le binarisme. C'est-à-dire qu'on avait un autre niveau auquel la dualité des sexes s'exprimait. Et du coup, à la fin du 19e, il y a une sorte de folie autour de la testostérone. C'est-à-dire, on pense que c'est la molécule de rajeunissement, en fait.
La testostérone.
De régénération. C'est-à-dire, les types prélèvent de la testostérone chez des chiens, des chevaux, des singes. Et puis, ils se font des injections, quoi, pour retrouver leur force vitale. Je ne sais pas comment ils faisaient pour ne pas se rendre malade, d'ailleurs, avec tout ça. Mais bref, les cures de remasculinisation grâce à des molécules. C'est très intéressant. On avait trouvé une molécule magique, mais que c'était une famille d'hormones. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux familles, les hormones mâles et les hormones femelles, on s'est aperçu que c'était une même famille d'hormones, que les unes pouvaient se transformer en les autres. Du coup, ça donne lieu, par exemple, à des phénomènes bizarres, comme le fait que si un bodybuilder prend trop de testostérone, en fait, au bout d'un moment, la testostérone se transforme dans son corps, et donc de molécules à effet masculinisant, ça se transforme en molécules à effet féminisant. D'où le fait que, les magnifiques pectoraux vont bientôt se mettre à tomber et à former une poitrine, en fait. C'est les mêmes molécules, en fait, qui produisent des effets différents selon les dosages, en quelque sorte. Au lieu d'avoir quelque chose qui renforçait le binarisme comme on l'a cru au début, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était un puissant opérateur de transformation sexuelle, en quelque sorte. Quand on s'est aperçu que de la testostérone, elle n'était pas absente du corps des femelles, qui en avait dans l'urine des juments, à ce moment-là, ça change la signification de la testostérone. Et ça dit, bien loin d'être la molécule qui représente l'essence de la masculinité, c'est un outil extrêmement dangereux dont il faut se méfier, en fait. Elle peut vous réserver des surprises, la testostérone. Après, que des molécules produisent des comportements ou incitent des comportements, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel sens se fait la causalité, en quelque sorte. Par exemple, si vous êtes un père et que vous chérissez votre petit bébé, vous lui faites des gros câlins, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Est-ce que ces hormones déclenchent votre comportement ou est-ce que c'est votre comportement qui déclenche la sécrétion de ces hormones ? Vous voyez, il y a quelque chose de circulaire dans la sécrétion hormonale qui est très intéressant et qui n'est pas juste un déterminisme hormone égale comportement automatique.
Il y a un autre préjugé ou idée assez populaire qui est qu'on aurait une nature nous les humains, et il y aurait une nature mâle et puis une nature femelle, une essence féminine, une essence masculine, et que tout ça trouverait ses racines dans un fonctionnement biologique. Et qu'il n'y avait qu'à voir les animaux, ça marche aussi comme ça pour les animaux. J'aimerais voilà, que vous nous parliez de nature et de culture. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nature féminine et qu'il y a une nature masculine, et que nos comportements, nos tempéraments, nos caractères seraient inscrits dans nos corps?
Alors d'abord, si vous me permettez, je vais faire la réponse sur une nature mâle et une nature femelle. Et après, on verra nature féminine et nature masculine. Nature mâle et nature femelle. Comme je l'ai dit, la biologie, c'est une science qui parle en général de toutes les espèces, et notamment des espèces à reproduction sexuée. Donc en théorie, si notre histoire que l'anisogamie, le fait que certains individus produisent des petits gamètes nombreux et d'autres, et doivent les disséminer, et d'autres des gros gamètes coûteux, donc la reproduction, ils doivent faire attention avant, etc. Si ça c'est vrai, que c'est ça qui entraîne tous les comportements, ça devrait être vrai pour toutes les espèces qui font des gamètes comme ça. D'accord ? Or, c'est pas le cas. On connaît des espèces qu'on appelle, justement parce qu'elles surprennent, des espèces à rôle sexuel inversé. C'est-à-dire des espèces où les mâles, même s'ils produisent des petits gamètes nombreux, sont l'espèce qui couve, qui reste au nid, qui est un peu timide. Et puis de l'autre côté, les femelles, même si ce sont elles qui produisent les œufs coûteux, elles sont colorées, combattantes, et elles se battent pour la possession des mâles. Voyez ? Donc c'est bizarre, parce que si on se dit il y a un déterminisme biologique inexorable qui est inscrit quelque part dans le fait de produire telle ou telle gamète, ça devrait être universel, on devrait trouver ça partout. Or à chaque fois, on a des exceptions. Idem, donc la question de ben, les femelles sont comme elles sont parce que c'est elles qui doivent assurer la couvée, quoi, enfin, la gestation, etc. Tout ça. Ben, chez les hippocampes, par exemple, c'est les mâles qui font la gestation dans leur fameuse poche marsupiale. Vous voyez ? Donc, ces exceptions-là, ce sont des exceptions, bien sûr. Il y a quand même une règle générale. Mais ces exceptions, elles vous montrent quoi ? Elles vous montrent qu'il n'y a pas de déterminisme strict et inexorable, et que entre en jeu dans les modes d'organisation sociale des espèces, pas seulement humaines, des facteurs environnementaux. C'est-à-dire, on ne sait pas trop comment expliquer pourquoi, mais on dit qu'il y a sans doute quelque chose qui a favorisé le fait que dans telle ou telle espèce, ben, la division du travail, s'il y en a une, s'est faite différemment. Donc voilà, pas de déterminisme strict. C'est-à-dire, l'anisogamie, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement percutant pour expliquer pourquoi les hommes et les femmes se comportent comme ils le font. En fait, l'anisogamie, c'est peut-être un des éléments de l'équation, mais c'est pas tout, le tout de l'équation. Voilà, premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'espèce humaine, c'est une espèce qui est paradoxalement peut-être assez isolée. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des cousins primates, d'accord ? Mais regardez les cousins primates que nous avons. Nous avons d'un côté les orang-outans, où l'organisation sociale, c'est souvent une femelle célibataire avec ses petits et des mâles qui viennent de manière occasionnelle. Les gorilles, chez qui on a une structure, on pourrait dire, patriarcale, avec un mâle dominant, un groupe de femelles, les autres mâles qui sont rejetés à l'extérieur et qui, du coup, sont contraints, les pauvres, à des comportements homosexuels en attendant que des femelles se présentent. Vous voyez ? Les chimpanzés, chez qui l'organisation sociale est beaucoup plus fluide, avec des sortes de rivalités et des rapports un peu furtifs hein, entre les individus. Les bonobos, qui sont célèbres parce qu'ils ont des modes de pacification sociale qui passent par le frottis-frottis génital et plein de choses passionnantes. Vous voyez ? Donc, autour des espèces les plus proches de nous, d'un point de vue évolutif, on a des modes d'organisation sociale très divers. Et ça a perturbé les biologistes parce que, effectivement, si on appartenait à une sorte de famille uniforme où le modèle du gorille, par exemple, serait celui qui est représenté par toutes les familles les plus proches que nous, de nous, on se dirait « Ah ben oui, ben nous aussi, alors ça doit être comme ça. » Et le mâle dominant, c'est quelque chose qui est codé biologiquement. Mais il y a ce trouble. Du coup, ils ont essayé de faire des « calculs », entre guillemets, c'est-à-dire, ils ont dit « Alors voyons, plus la compétition sexuelle doit être intense entre les mâles, plus le pénis doit être grand. » Donc, par exemple, chez le gorille, vu qu'il y a un seul mâle dominant, il peut se permettre d'avoir un micro-pénis ou un pénis de taille très minime par rapport à sa taille. En revanche, chez les chimpanzés, où la compétition est beaucoup plus aiguë, du coup, la taille du pénis est un peu plus grande aussi. Donc, ils ont dit, bah, alors les humains, alors on va regarder la taille du pénis par rapport à la taille globale de l'individu, et puis on va voir, à partir de là, on va déduire le mode naturel d'organisation sociale des humains, et alors À quoi est-ce qu'on a abouti, à votre avis ? On a abouti à l'idée que chez les êtres humains, le mode d'organisation naturel, ça serait une sorte de monogamie avec légèrement contrainte, quoi. C'est-à-dire, les mâles ont une légère tendance à l'infidélité quand même, mais bon, globalement, ça va. Ça tombe bien, dis donc. Vous vous rendez compte ? C'est sympa. On avait enfin trouvé la justification biologique de notre organisation sociale, notamment contre tous les affreux polygames qu'on peut trouver dans des pays bien loin de chez nous, bien sûr. Et voilà. Donc,
vous dites ironiquement. Hein, parce ironiquement. Qu'en fait, c'est pas...
Ironiquement. C'est vrai que l'ironie...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A besoin d'être souligné, sinon on n'est pas sûr.
Non, parce qu'il y a des gens qui soutiennent vraiment ça, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a,
mais
une
y a
passion,
des biologistes qui soutiennent ça.
Il y a des
ça.
Biologistes, ouais. Enfin, une des passions, et je sais qu'il faut se méfier, c'est de passer son temps à chercher dans la biologie des justifications de nos organisations sociales.
Mais bien sûr, donc là, ce que je veux dire, effectivement, avec beaucoup d'ironie, c'est qu'en fait, il y a des discours qui sont des discours de naturalisation. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, dans la biologie, par tous les moyens possibles et contre toutes les évidences possibles, des justifications pour un certain ordre social. Donc, contre ça, il faut se braquer, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut se demander ce que les gens ont dans la tête quand ils vont chercher la nature. Parce qu'en fait, le premier point très important ici, c'est que l'espèce humaine est une espèce chez qui le naturel et le culturel sont extrêmement enchevêtré. On ne rencontre jamais, je disais, des humains nus, c'est-à-dire des humains purement biologiques. D'accord ? Donc ça, c'est très important.
Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a encore cette idée hyper répandue que nature et culture, il y a encore une opposition, ça existe. Il y a d'un côté ce qui est inné, l'autre ce qui est acquis, etc. Mais toutes les sciences là sont d'accord pour dire que non, en fait, il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre la culture.
De fait, les êtres humains que nous rencontrons sont toujours 100% biologiques et 100% culturels, entre guillemets. C'est-à-dire, vous réfléchissez à quelque chose comme l'alimentation, par exemple. Bien sûr, c'est codé biologiquement. C'est-à-dire, vous avez des organes qui peuvent digérer certaines choses, etc. On n'est pas des ruminants, par exemple, vous voyez. On n'est pas non plus des carnivores avec des grosses canines prononcées. On est quelque chose entre les deux, voilà. Donc, l'alimentation, c'est 100% codé biologiquement. Et pourtant, il nous faut des nutriments donnés, de la diététique. Et en même temps, c'est hautement 100% culturel, au sens où c'est des recettes, c'est de la culture, c'est du goût et du dégoût. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà. La coiffure, bah, il faut avoir des cheveux, d'accord ? Et ça, effectivement, c'est des certaines molécules qui sont agencées. Tout le monde n'en produit pas, pas de la même texture, pas, etc. Et en même temps, la coiffure, bon, bah, ça donne lieu à toute une floraison. Voilà. Bah, le sexe, c'est pareil. C'est 100% codé biologiquement. Et en même temps, ce qu'on en fait, les valeurs qu'on y associe, etc., varient en fonction des cultures. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement culturel. On n'est jamais du pur sexe biologique. On n'est jamais le porte-parole de ses chromosomes, vous voyez ? Tout ça, c'est recodé de manière culturelle. Donc, voilà, ici, la biologie, elle intervient toujours comme une justification qui vient rarement, et c'est très rare pour la science, elle vient rarement nous déconcerter, cette biologie, si on s'en tient à la biologie standard, telle qu'on se la représente dans « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Elle vient toujours conforter, comme par hasard, nos préjugés sociaux ou les désirs qu'on a. En l'occurrence, si on pense aux travaux d'un biologiste comme Michel Raymond, par exemple, qui a fait justement l'apologie d'un régime polygame, en disant, en fait, la biologie nous inclinerait à adopter ce mode d'organisation sociale. Bon, ben, c'est des gens pour qui, finalement, être un homme ou être une femme, c'est être à la recherche de deux choses différentes dans la rencontre sexuelle. Les hommes recherchent la fécondité, les femmes recherchent l'homme qui va pouvoir leur apporter des ressources, c'est-à-dire plutôt un homme vieux. Et voilà, et on a tout à coup justifié de manière biologique, pseudo-biologique, l'argument que, selon lequel ou pour lequel les jeunes filles iraient spontanément se jeter dans les bras des vieux messieurs. Vous voyez ? Je veux dire, ça correspond effectivement à un modèle social qu'on rencontre, et on se rend compte que le modèle inverse, c'est-à-dire le jeune homme qui irait avec une femme plus ancienne, plus âgée, c'est quelque chose qui est moins usuel et qui surprend plus. Mais donc, on voit bien ici que finalement aussi, il y a énormément de représentation sociale derrière ces couples-là, d'acceptabilité de certaines liaisons. Il y a une dimension psychanalytique aussi qu'on ne peut pas négliger. Et réduire tout ça à simplement de la biologie, la recherche de la fécondité, etc., ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on copule, on copule pour avoir un enfant ? Mais ça n'a jamais été vrai. La fécondité a été toujours quelque chose qui venait en plus de la copulation. La fécondité, ça a été un surplus. Les gens avaient trop d'enfants.
Mais alors, c'est quoi cette passion de la biologie, là, qui est tellement fréquente ? Pourquoi on aime tellement les explications biologiques qui expliqueraient nos comportements ?
Je dirais que si les individus n'aiment pas avoir un destin, en revanche, ils aiment avoir une place. C'est très confortable. C'est très fatigant de devoir... s'inventer, ou se dire qu'on a une responsabilité, ou se dire que les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. Et la biologie, de ce point de vue-là, enfin, ou cette biologie-là qu'on raconte, c'est très rassurant parce que il n'y a pas à se poser de questions, il y a des choses qui vont de soi. Je vais donner juste un exemple, mais voilà, si vous avez des désirs homosexuels, par exemple, des désirs pour une personne du même sexe que vous, c'est assez difficile à accepter déjà soi-même, à faire accepter à sa famille. Si vous êtes hétérosexuel dans le monde dans lequel vous évoluez, eh bien, il y a des choses qui vont de soi, en fait. Et vous avez l'impression d'être à votre place, d'occuper une place, d'être dans le sens du monde. C'est très réconfortant. Dans toutes les sociétés, il y a ce qu'on appelle des rites de passage, par exemple. Et donc, c'est une manière très étrange de concevoir la nature que de penser cette nature qui devrait être, en quelque sorte, confortée ou conformée par la culture. Être un homme doit être instauré, en fait. On doit s'installer dans la situation d'être un homme. D'accord ? On doit le mériter par des scarifications, tout un tas de rites compliqués. Mais c'est très étrange. Nature, au départ, ça veut dire spontané. Quelque chose qui doit sortir tout seul. Et cette nature sexuelle des individus est tellement spontanée que la culture, la société, ne cesse de se sentir contrainte de répéter, conforter, réassurer, faire en sorte que les individus soient bien dans la lignée. Je donne un exemple. Quand on a essayé d'expliquer aux petits garçons et aux petites filles dans les écoles qu'il n'y avait pas seulement les princesses et les chevaliers, mais que les petites filles pouvaient être cosmonautes, etc., certains parents se sont indignés. Ouais. Il y a eu des journées de retrait de l'école, ils se sont ligotés devant les écoles, etc. Bon, bref, en disant « vous allez rendre nos enfants homosexuels ». Mais c'est dingue que quelque chose qu'on considère être naturel, être un homme ou être une femme, être une fille, être un garçon, soit tellement fragile que le simple fait qu'on dise à une fille « tu peux être un cosmonaute » va la rendre lesbienne. C'est dingue. Et idem, un garçon qui pourrait être, alors évidemment, je sais pas, coiffeur ou designer, alors là, c'est homosexualité garantie également, ouais. Alors, c'est naturel ou pas ? Parce que si c'est naturel, j'aimerais... On peut être tranquille. Ça doit être spontané. Vous voyez ? Ça doit venir tout seul. Si la culture a besoin de surveiller à chaque instant que ça se passe bien comme ça, c'est bien que ça ne l'est pas, ou pas seulement. Et de fait, qu'est-ce qui, dans nos chromosomes, nous prédestine à porter des jeans baggy dès la naissance, avec des survêtes de sport, voyez ? Non, les adultes s'emploient à transformer les bébés dès la naissance, et même dès avant la naissance, en mini-adultes. C'est-à-dire à s'assurer de toutes les manières possibles que la destinée sexuelle des individus est garantie, qu'il n'y aura pas d'accident et que ça va bien se dérouler et que l'individu, à la fin, sera à la place qu'on a prévue pour lui. Donc, ça montre bien à quel point ça n'est pas naturel, que la biologie n'a rien à voir là-dedans. D'accord ?
Donc, mais pour autant, vous dites, et c'est ça aussi qui m'intéressait dans votre discours, dans votre livre, dans vos travaux, vous dites, parce que quand on fait des études de genre, on a tendance à dire, en gros, pour caricaturer, tout est construit, tout est social, etc. Mais vous vous dites, non, justement, il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre de vue le corps, à ne pas perdre de vue le biologique et tout ça. Donc comment on fait pour tenir ces deux exigences-là ensemble ? Et comment ça peut créer quelque chose d'encore plus vrai, en fait ?
Je dis juste, effectivement... Les sexes, ça a été quelque chose qui a été inventé par l'histoire de la vie pour permettre la reproduction, en quelque sorte. Aujourd'hui, pour plein de raisons différentes, ce rôle de la reproduction dans nos vies est devenu limité. Il a changé de signification. On n'est plus des individus qui sont nés pour reproduire l'espèce, pour reproduire l'espèce, il y a d'autres manières de faire, on peut se débrouiller. Certains pensent qu'il ne faut pas du tout la reproduire d'ailleurs, mais enfin ça c'est d'autres questions. Ça n'empêche pas que les individus sont dotés d'une anatomie, sont dotés d'une physiologie, sont traversés par tout un tas de phénomènes biologiques. Et je dirais que le premier des phénomènes biologiques, le plus important, c'est le temps en fait. Nous sommes traversés par un temps biologique qui nous emporte. Nous ne sommes pas que des purs cerveaux, nous sommes aussi une matière, nous sommes aussi un corps, et que ce corps se transforme, se transporte. Voilà. Il se passe plein de choses dans nos corps dont on n'est pas les maîtres, donc qu'on n'est pas en mesure de contrôler. Alors la puberté, c'en est un, la vieillesse, c'en est un autre, mais tout au long, il se passe des choses, d'accord ? Voilà. Donc, et ça, on le connaît tous dans nos vies. La calvitie chez les hommes, les règles chez les femmes, voilà, on expérimente ces rythmes-là. Donc, nous sommes aussi partie prenante de quelque chose de biologique. Nous avons, en quelque sorte, évolué en tant qu'êtres vivants avant que de devenir des êtres humains, des êtres de culture. Donc, tout ça, ça garde un rôle. Les biologistes, ils veulent tout assigner à un certain récit naturaliste qui n'attribuerait d'importance qu'à cela. En oubliant justement toute la dimension culturelle qui s'est enchevêtrée, je disais, à ces dimensions-là.
Enchevêtrée à tel point qu'on ne peut pas séparer ce qui est naturel de ce qui est culturel.
D'un côté, les biologistes veulent naturaliser tout. D'un côté, les études de genre veulent attirer notre attention sur les aspects politiques et sociaux de ces choses-là. Le fait qu'il y ait aussi des inégalités de pouvoir qui passent à travers ça. Mais la vérité, c'est que nous sommes des individus et nous sommes à la fois des êtres 100% culturels et 100% naturels, et que ça oblige à un certain agnosticisme. C'est-à-dire, d'un côté, on a des naturalistes qui disent les choix de jouets des enfants sont codés biologiquement. On a fait des expériences sur des petits singes et ça prouve 100%, on est sûr que même les petits singes vervés, les femelles préfèrent des poupées ou des casseroles et les mâles préfèrent des petits camions. De l'autre côté, on a des études de genre qui vont dire on voit bien comment, à partir de la fin du 19e siècle, l'industrie du jouet se segmente et puis, etc. Et puis aujourd'hui, on a les rayons roses et bleus. La question, c'est entre les deux discours, qui a raison, qui a tort ? Peut-être qu'ils ont raison tous les deux, en fait. On ne peut pas savoir. Si vous élevez un enfant, vous rendez compte que l'enfant, c'est pas une matière 100% plastique. Est-ce que c'est lié à sa personnalité ? Est-ce que c'est lié à son sexe ? Est-ce que c'est lié à plein de choses que vous ignorez ? Et donc, vous allez surprendre des petits garçons qui sont effectivement très mobiles, qui grimpent partout, comme vous verrez jamais une petite fille ou des petites filles, voilà. Vous savez pas si c'est biologique, si c'est culturel, quelle est la part du social, si c'est dû à votre regard, à votre éducation, au fait que la nounou a fait ci ou l'école a fait ça. On sait pas, en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des petites personnes qui agissent et puis auxquelles vous devez donner un environnement, vous devez donner des valeurs, vous devez expliquer que, vous devez faire en sorte qu'elles soient heureuses, voilà. Vous les orientez aussi dans ça. Votre regard, il n'est pas tout puissant sur les enfants. Les enfants, ils peuvent, ils s'en fichent de vous, en fait. Ils peuvent vous acquiescer parce qu'ils vous aiment, mais ils feront ce qu'ils veulent à la fin. C'est lié à quoi ? C'est lié à un déterminisme social, vous voyez ? L'orientation sexuelle, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que vous êtes comme ça, vous avez eu un traumatisme psychique, vous avez un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a tout un courant qui a cherché le gène de l'homosexualité, etc. Voilà. Enfin...
Oui, aujourd'hui, on cherche même les gènes de la transidentité. Hein ? Donc on cherche, on dit, c'est codé en fait. Et donc du coup, on va pouvoir intervenir sur des enfants de plus en plus jeunes parce qu'on les aura codés comme trans dès le départ. Moi, j'ai pas la réponse sur ces questions, mais en fait,
un agnosticisme, ce qui veut dire, que vous suspendez le jugement. Je ne sais pas.
Je crois qu'il faut. Ce que je sais, c'est que il faut pas se livrer pieds et poings liés à des biologistes qui vous diraient qu'ils ont la réponse, parce que certains programmes de recherche sont en quelque sorte politiquement orientés. Et ça, c'est très important. Au 19e siècle, par exemple, on voulait démontrer que les races étaient inégales et que certains humains venant d'Afrique étaient plus proches des singes que les Britanniques, les Allemands ou les Français. Eh bien, on a construit une science très complexe qui s'appelle la craniologie, où on montrait, à partir de recherches sur les angles faciaux, cette continuité. Voilà. Alors, les craniologues disaient « Attention, tout individu humain a droit à notre respect et je ne suis pas en train de justifier l'esclavage. Mais n'empêche qu'il faisait une science extrêmement complexe, mathématique, etc. Et sans biais, c'était des gens honnêtes, ils mesuraient vraiment les angles. Mais pour démontrer à la fin qu'il y avait une inégalité entre les races. Ok ? Ben, aujourd'hui, toute proportion gardée, je ferai le même constat sur la recherche sexuelle, c'est-à-dire pourquoi ça nous intéresse à tel point de savoir comment les cerveaux sont différents, si les femmes n'ont pas le sens de l'orientation biologiquement ou socialement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça nous intéresse tant ?
On n'a pas parlé de psychologie évolutionniste, mais dans le genre, c'est aussi vraiment souvent utilisé les arguments de psychologie évolutionniste pour justifier des comportements genrés différents, parce que ce serait codé dans nos gènes.
Alors, l'idée de base de la psychologie évolutionniste, c'est pas inintéressant. C'est l'idée que, finalement, si on est vraiment darwinien, c'est-à-dire si on pense que les individus vivants ont été façonnés en quelque sorte par la sélection naturelle n'a pas façonné uniquement que les anatomies, les organismes. Elle a aussi façonné, dans une certaine mesure, les comportements, donc des instincts. Si les individus n'avaient pas prêté attention à leur progéniture, par exemple, ceux qui n'étaient pas attendris par le mignon faciès de leur progéniture, ou qui n'étaient pas attentifs aux petits cris, ou je sais pas quoi, ou qui les mangeaient, tout cela ont eu du mal à produire de la descendance, d'accord ? Donc, il y a eu des choses qui ont, autrement dit, façonné pas seulement notre anatomie, mais aussi notre psychologie. Voilà. Il y a des études de psychologie évolutionniste, en quelque sorte, qui disent, regardez, par exemple, les choses qui nous attendrissent. Les bébés tortues, les petits bébés chiots, ils disent, il y a un très bel article de Stephen Jay Gould là-dessus qui dit, regardez, c'est des faciès, des petites têtes rondes en fait, qui ressemblent à nos têtes de nos bébés en fait. Donc ce qu'on trouve mignon chez d'autres espèces, c'est en fait quelque chose qu'on a été sélectionné à aimer, c'est-à-dire la petite tête ronde des bébés. L'évolution n'a pas sélectionné uniquement les anatomies, elle a aussi sélectionné nos cerveaux, nos goûts, nos préférences, nos attendrissements, etc. C'est ça le point de départ, la transmission de notre espèce. Okay. Dans ce cadre-là, évidemment, quelque chose comme l'homosexualité est assez problématique parce qu'on se dit comment quelque chose qui ne conduit pas nécessairement à une descendance a pu se propager. Voilà. Donc ça, il y a eu ce problème-là. Alors on a dit, en fait, les homosexuels étaient des bons auxiliaires pour la famille hétérosexuelle. Vous voyez, ils apportaient des ressources supplémentaires. Voilà. C'était le bon oncle. Voilà, dans la famille. Et comme il partageait des gènes avec sa sœur, celle-ci a pu transmettre les gènes homosexuels sans que l'homosexuel se reproduise nécessairement. Voilà, il y a eu ce problème-là, vous voyez. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir, disons, de tout ça, ce sont à la fin des raisonnements de plausibilité, essentiellement. C'est-à-dire, on se dit, on essaye d'imaginer des récits qui rendent raison du fait que certains caractères, qui seraient tous nécessairement codés génétiquement à la base, se seraient transmis, se seraient propagés dans la lignée humaine qui aboutit à ces choses merveilleuses que nous sommes. Donc, c'est ça le point de départ.
De la psychologie évolutionniste, qui n'est pas ce à quoi vous souscrivez forcément.
Voilà, et donc à partir de là... En fait, ce qui m'agace terriblement là-dedans, c'est cette idée d'abord finalement, à partir de comportements, qui sont souvent des comportements, on va dire, historiquement extrêmement récents. Par exemple, si on regarde donc la consommation de pornographie, par exemple, par les hommes, qui occupent une part très importante du trafic global sur Internet, c'est quand même un fait frappant. Mais c'est un phénomène extrêmement récent également, puisque ça implique l'existence d'Internet, etc. Donc, dire que tout ça, c'est codé par, disons, des choses qui auraient été importantes pour la survie de l'espèce au Pléistocène, c'est un peu pareil, dédouaner les individus de la responsabilité de leur comportement individuel, en fait, quoi, voilà, de leur responsabilité.
Là, vous parlez du porno, mais il y a même des gens qui font des théories sur le viol. Il y a des chercheurs, il y a deux chercheurs de la California State University, ça fait des dizaines d'années qu'ils publient des articles pour expliquer que le viol, c'est une technique de reproduction tout à fait naturelle, qui permet au mâle de s'assurer une descendance et que, donc en fait, c'est tout, encore une fois, c'est comme la naturalisation, la psychologie évolutionniste, ça sert à justifier des comportements en disant qu'en gros, on n'y peut rien, quoi.
Quel est l'argument ici ? Eh bien, je dirais c'est sur l'histoire naturelle du viol, c'est-à-dire l'idée que le viol existe dans d'autres espèces que l'espèce humaine et que dans notre espèce, ça n'est qu'un comportement biologique comme les autres, on trouve finalement la même chose que dans ce que j'appellerais l'histoire naturelle de l'homosexualité. C'est-à-dire l'idée qu'on trouve des comportements homosexuels dans la nature et pas seulement chez les humains. Okay ? Et on voit ici comment la naturalisation peut jouer dans stratégies politiques complètement différentes. Du côté de l'histoire naturelle du viol, c'est un truc qui, en fait, contribue à légitimer le viol, entre guillemets, à dire que c'est une chose qui n'est pas si mauvaise que ça, ou en tout cas qu'on peut comprendre. Et de la même manière, ça peut être utilisé, l'histoire naturelle de l'homosexualité, pour justifier ces comportements et dire bah, ils sont dans la nature, donc ils ne sont pas mauvais. Sauf que, en fait, on a des, si on est une personne à l'entendement, je peux dire, ordinaire, peut-être de gauche, on trouve que l'histoire naturelle du viol, c'est dégueulasse, et l'histoire naturelle de l'homosexualité, pourquoi pas, après tout. D'accord ? En fait, c'est quoi le fonctionnement est le même, c'est-à-dire, on va identifier dans la nature, chez des espèces aussi diverses que des punaises, des oiseaux ou des mammifères, des choses qu'on va appeler homosexualité ou qu'on va appeler viol. C'est très compliqué. Il y a des punaises, par exemple, qui, pour se reproduire, au lieu de passer par l'intromission classique, le mâle transperce la femelle et lui injecte directement ses spermatozoïdes dans le corps. On appelle ça viol chez les punaises. Vous voyez, enfin, il y a des biologistes féministes qui ont dit peut-être qu'on devrait parler simplement de copulation forcée ou voilà, viol, c'est trop psychologique, en fait. Bon, ben, sur la question de l'homosexualité, quand vous trouvez deux scarabées mâles accrochés l'un à l'autre et vous dites, ben, c'est de la même manière de l'homosexualité, est-ce que ça a rapport avec, est-ce que c'est que, avec ce que c'est qu'être gay en 2018 ? Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, moi, je suis mal à l'aise par rapport à ces tentatives de naturalisation, qu'elles servent des fins émancipatrices ou qu'elles servent des fins dominatrices, quoi. Voilà. Je trouve que dans les deux cas, on a tendance à projeter dans la nature des représentations trop simplifiées de certains comportements humains et en les détachant de leurs institutions pour leur donner une forme, on pourrait dire, anhistorique, pour leur donner une forme immémorielle qu'on retrouverait de tous les temps et dans toutes les espèces, en quelque sorte. Évidemment, ça a une fonction de dire « c'est dans la nature, donc ça n'est pas monstrueux ». Et on voit quelles conséquences on peut en tirer dans un cas ou dans l'autre. Les usages politiques de la naturalisation sont jamais à négliger, en fait. Voilà. Et en tout cas, la stratégie générale de la naturalisation, c'est-à-dire de l'interprétation biologique de phénomènes socio-culturels historiques, me semble problématique, même si, in fine, il y a toujours une dimension biologique.
C'est ça, donc c'est quoi la voie ? Vous, j'ai lu que vous preniez l'objectivité forte. Enfin, c'est pas vous d'ailleurs, c'est Sandra Harding, une philosophe féministe américaine. Qu'est-ce que c'est l'objectivité forte ?
C'est une objectivité qui contrôle ses biais, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un naturalisme qui ne s'en tient pas à l'affirmation de, comment dire, d'idées simples, vous voyez ? Quand on étudie vraiment la nature, la nature nous donne des leçons beaucoup plus riches et passionnantes que la simple idée qu'il faille un papa et une maman pour faire un bébé, en fait. Voilà. Ça, c'est une caricature de l'espèce humaine, une certaine conception de ce que doit être l'espèce humaine et qu'on a envie de projeter dans la nature. La nature, c'est le bazar, en fait. C'est très compliqué, la nature. L'objectivité forte, c'est se dire, quand on parle de sexualité, par exemple, dans la nature, contrôler ses biais.
Contrôler ses biais, ça veut dire être conscient des préjugés qu'on a, être conscient de avec quel genre de lunettes on peut regarder la réalité, en fait, c'est ça ?
Oui, l'exemple qui a souvent été donné, c'est l'exemple de la primatologie, dans lequel, finalement, on regardait principalement l'activité copulatoire des mâles, par exemple. Et on ne s'intéressait pas à la sexualité des femelles. Et puis, à un moment, il y a une nouvelle génération de chercheuses qui est arrivée sur le terrain, qui a changé le regard sur la manière dont les femelles pouvaient, justement, n'étaient pas spontanément monogames, mais avaient, au contraire, des copulations multiples avec des mâles multiples. Et on a cherché à comprendre pourquoi elles faisaient ça, et quels intérêts elle pouvait y avoir aussi. Alors qu'avant, on ne l'avait pas vu. On disait, le mâle est polygame et la femelle est monogame, en fait. Une nouvelle génération de biologistes est arrivée, a vu les choses différemment, parce que par ailleurs, c'était des femmes qui avaient aussi un engagement féministe ou une culture féministe, et du coup, elles voyaient les choses différemment aussi. Est-ce que ça veut dire que la science est une idéologie ? Non. Mais ça veut dire qu'il y a un contrôle des biais qui doit être fait, c'est-à-dire des points de vue différents peuvent se compléter, être réorganisés, etc. Aux gens qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, je crois qu'il faut que ces personnes s'engagent aussi dans une certaine compréhension du discours biologique. Car il ne faut pas simplement, disons, s'enfermer dans un discours des sciences humaines et sociales qui est un discours de la déconstruction, un discours critique, un discours où tout est in fine politique. Pendant que les naturalistes, eux, les biologistes, les psychologues, etc., font des interprétations biologisantes à outrance. il faut être capable de faire
la synthèse.
Voilà. Il faut être capable d'aller voir ce que font les biologistes, d'être capable de le critiquer sur le terrain même de la biologie. C'est-à-dire, pas seulement de dire « c'est de la biologie, c'est mauvais ou c'est sexiste », parce que c'est trop facile de dire « c'est sexiste ». Voilà. Il faut aller voir comment c'est construit et dire bah, « vous vous rendez compte quand même que vos preuves elles sont extrêmement faibles, qu'il s'agit simplement d'un argument de plausibilité et en aucun cas d'une démonstration, qu'entre le dispositif expérimental que vous avez mis en place et puis la conclusion extrême que vous tirez, il y a un saut ». Donc voilà, faire le travail de déconstruction du travail biologique naturalisant sur le terrain même de la biologie et non pas seulement à partir des études psychologie, sociale, historique, qui sont très importantes sur leur terrain, mais qui ne suffisent pas à faire barrage à la naturalisation exubérante et exacerbée en fait de quantité de domaines de l'activité humaine, depuis les compétences en mathématiques au choix de jouer ou à la capacité à s'orienter dans l'espace. Voilà.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'étudier la virilité, d'étudier le genre dans les relations que vous avez avec les hommes, avec les femmes?
Bon, déjà, je pense que la première chose, c'est que ça a fait mon éducation féministe. C'est-à-dire, ça m'a fait m'interroger sur des situations auxquelles j'aurais jamais prêté attention avant. C'est-à-dire, par exemple, si vous pensez à un collectif comme La Barbe, par exemple, qui dit, ben, vous voyez, là, c'est un collectif en non-mixité, blanche, hétérosexuelle, ou que d'hommes, voilà. Donc, vous avez cette idée que des situations qui paraissaient complètement invisibles avant deviennent tout à coup, vous sautent aux yeux de manière choquante. Et en fait, on se dit, mais effectivement, il n'y a pas de femmes là. Pourquoi? Pourquoi on n'est qu'entre hommes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça fait réfléchir à ces questions-là. Plus généralement, il y a quelque chose, mon regard sur l'anatomie, il a changé. C'est-à-dire, si vous vous dites qu'en fait, finalement, la différence entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui se joue au niveau embryonnaire, où à un moment, il y a une certaine suture qui s'opère dans l'anatomie masculine, donnant lieu à ce qu'on appelle la petite ligne, qu'on appelle le raphée, ou bien... voilà.
La petite ligne qu'on appelle le raphée, donc qui passe entre les... Enfin, qui passe sur le scrotum,
voilà.
Et qui remonte sur la verge.
Et qui part de l'anus, si je ne m'abuse. Donc, c'est juste une petite différence comme ça. Si vous vous dites qu'un pénis, d'une manière ou d'une autre, ça s'apparente à ce qu'est un clitoris, que finalement, c'est la même structure en fait, qui s'est développée différemment, qui a pris deux voies différentes dans le devenir de l'embryon, en fait. Bah, ça change... votre regard sur ce que c'est que l'anatomie, sur ce que c'est qu'être un être sexué, en fait. Et cette attention, je dirais, accrue au caractère extrêmement fragile de tout ça. C'est-à-dire que devenir un homme, devenir une femme, d'un point de vue anatomique même, c'est-à-dire, c'est quelque chose, un processus complexe dans lequel les déterminants sont nombreux, ça n'est pas une donnée de base. C'est quelque chose qui peut connaître beaucoup d'accidents, de variations, voilà. Et que ce face-à-face des femmes et des hommes, c'est pas le face-à-face entre Mars et Vénus, mais ça donne lieu à toute une diversité de formes de vie, de personnalités, de caractères, de tempéraments, dans lesquelles, oui, sans doute, il y aura des individus qu'on va reconnaître comme typiques de... Voilà. Mais il y a toute une phase de recouvrement, en fait, où on pourrait dire être un homme ou une femme, c'est quelque chose de secondaire, vous voyez. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette zone de caractère où c'est pas l'androgynie, en fait, parce qu'il y a justement une multitude de caractères qui se superposent, qui s'enchevêtrent et qui font qu'on peut être très homme ou très femme sans pour autant correspondre à une sorte de stéréotypes qui seraient en quelque sorte Arnold Schwarzenegger contre Marilyn Monroe, quoi, voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit, comment dire, d'une diversité, des modes de subjectivité, voilà, et des manières d'être homme, femme ou quelqu'un d'autre, qui est quelque chose d'attachant, je trouve. Voilà,
et d'enthousiasmant et de libre.
Ouais, voilà, de... Il y a une inventivité, en fait, que je trouve exaltante et qui est souvent recouverte par la peur de l'androgynie, en fait. Quand on dit « Ah oui, mais fille, garçon, c'est plus compliqué que ça. Homme-femme, c'est plus compliqué. Ah oui, d'accord, bon, c'est l'androgynie, c'est tout le monde pareil, c'est la neutralité. » Ben non, c'est pas la neutralité. Au contraire, c'est l'invention.
Et c'est pas tout le monde pareil. Voilà. Ouais, je suis d'accord, j'ai eu cette conversation-là il n'y a pas longtemps avec une fille qui me disait « Mais c'est tellement bien ces différences, moi j'aime ces différences et tout. » Et je lui disais « Mais tu sais, moi j'ai pas envie que les gens ne soient soit indifférent. J'ai juste envie qu'on puisse choisir à quel point on est différent et qu'on puisse être les plus libres possibles, en fait. C'est tout. Mmh. Dernière question. Quelle est l'œuvre artistique que vous souhaitez recommander aux auditeurices?
C'est un film adapté d'une comédie musicale off-Broadway qui s'appelle Hedwig and the Angry Inch. C'est John Cameron Mitchell. Le film date de 2001. C'est une comédie musicale transgenre, un peu alternative, qui mêle à la fois une pop-rock assez exaltante et puis un discours philosophique sur Platon, le mythe de l'androgyne, et puis cette question de qui on est, un trouble identitaire, qui on est, et puis qui va être l'autre qui va vraiment me compléter et me rendre heureux. Et donc c'est une fiction qui est à la fois dérangeante, exaltante et très voilà, dynamisante à regarder. Voilà.
Merci beaucoup Thierry. Ok.
Merci à vous.
C'était Les couilles sur la table, un numéro spécial sur la vraie nature de l'homme, numéro spécial biologie. Je vous encourage à partager tout ce qui vous a plu, étonné, enthousiasmé dans cet épisode autour de vous, avec vos amis, amants, famille, collègues, en vrai ou en virtuel. Enfin, ça c'est comme nature et culture, c'est une opposition largement dépassée. Donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et maintenant j'ai un compte Instagram aussi. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Jules Gelaoui s'occupe de la prise de son, Quentin Bresson de la réalisation, Camille Regache est occupée de l'édition, David Carzon, c'est le chef de la rédaction. Merci pour votre attention, à bientôt. Binge.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.